Eh bien, si aujourd'hui la situation s'améliore au quotidien, c'est-à-dire que le nombre de cas est en baisse ou demeure stable, que la vaccination va bien, bref, qu'il y a moins de pression sur le réseau de la santé, il n'en demeure pas moins que depuis 15 mois, 16 mois, on a dû procéder à des opérations de délestage, donc reporter des chirurgies, une liste d'attente qui est déjà longue au Québec et qui s'est allongée. La question, comment on peut rattraper le temps? Comment est-ce qu'on peut opérer plus de patients? Bref, comment on peut, je dirais, soulager des gens qui ont été pénalisés? Et il y a ceux qui ont le diagnostic et qui attendent, puis il y a ceux aussi qui attendent un diagnostic et qui vont venir s'ajouter à tous ces patients québécois. Je fais le point avec Dr Lucie Hopaternay, qui est sous-ministre adjointe à la Santé. Dr Hopaternay, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
On va pas trop donner de chiffres, mais j'aimerais avoir quand même là, ce matin une espèce de portrait global. Là. Ce que j'ai compris hier, si on prend ça comme calendrier, là, cet été, il n'y aura pas d'opération là, pour reprendre des chirurgies de façon importante. C'est comme une période de repos pour attaquer l'automne.
Exactement. À chaque été, dans la période estivale, on diminue le nombre de le volume de chirurgie et cette année, ça va être pareil que des années antérieures. On peut pas vraiment penser de reprendre à 100%. Le monde a besoin vraiment de se reposer.
OK. Si vous reprenez donc en septembre, d'ici la fin de l'année actuelle, vous prévoyez opérer combien de patients de plus donc qui se sont ajoutés depuis la pandémie?
Mais en termes de nombre moyen de chirurgies par mois, on veut, dès cet automne, revenir au volume de pré-pandémie. Des volumes, ça veut dire de 35 000 chirurgies par mois. Il y a des variations qui viennent toujours, avec certaines semaines, par exemple, mais c'est pas l'automne, période de relâche, etc. Mais environ 35 000 chirurgies par mois.
OK, mais ça permet pas de rattraper, ça permet de garder le volume actuel, non?
Exactement. C'est le 100%.
Mais là, on rattrape rien, là. On fait juste s'assurer que ça s'allonge pas trop, là.
Vous avez exactement raison. C'est vraiment pour stabiliser la situation et tranquillement, par contre, de cet automne puis le printemps, c'est tranquillement d'augmenter pour aller chercher le plus que 100%, parce que comme vous le dites bien, ça prend plus que 100% de commencer à creuser dans les listes d'attente.
OK, mais là... Hier, au point de presse, ça a été souligné, là, il y a les gens dont on connaît là, l'existence sur les listes. Il y a des gens qui n'ont pas consulté le médecin spécialiste. Il y a des gens qui attendent, parce que là, c'est une autre réalité, ça. L'attente pour voir un médecin spécialiste qui peut aboutir, encore une fois, à une chirurgie. Ça se peut qu'à la fin de l'année, on soit non seulement, même pas en rattrapage, mais encore avec une liste qui va s'allonger.
Non, bien honnêtement, les modèles qu'on a regardés pour estimer le nombre de patients en attente, ce qu'on a mis, c'est qu'on présume qu'on va avoir un volume de patients mis sur une liste d'attente qui est plus haut et plus élevé qu'en temps normal. Parce qu'on présume que les gens vont revenir, que les bureaux vont partir. C'est prévisible, cet élément-là. Alors, les chiffres qu'on a donnés, c'est vraiment en rajoutant qu'il va y avoir un rattrapage des personnes qui n'ont pas consulté pendant la pandémie.
La question la plus importante, on comprend les cibles, là, les objectifs, c'est comment? Parce que je regarde ce matin, là, je vous donne un exemple, là, démission aux soins intensifs. Le CIUS, et là je parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait appel aux autres régions. On donne des primes dans certains CIUS, puis là je ne parle pas nécessairement de médecins puis d'infirmières, là, mais pour aller chercher du personnel. On parle d'exode vers des cliniques privées. D'abord, est-ce que vous savez combien d'employés du réseau de la santé depuis la pandémie ont quitté?
Bien probablement, mes collègues dans le volet RH ont ça. Je peux pas vous le donner moi-même en ce moment. On sait bien qu'il y a des personnes qui ont changé d'une CIUS à l'autre ou des gens qui ont quitté pour vers les CMS ou les agences. Mais je peux pas vous donner ça comme ça. Mais le volet exode est important.
OK. Est-ce que vous savez combien il vous manque de personnes dans les différents postes pour faire la job que vous souhaitez faire?
Je ne sais pas si on devrait parler en personne ou en disponibilité des gens. Parce que si on parle, par exemple, on parle toujours des bras, mais c'est aussi la disponibilité de ces mêmes bras-là. Par exemple, les infirmières qui ont terminé depuis 50 ans, leur taux de temps plein est de moins que 40 %. Alors, c'est une combinaison des bras, mais aussi la disponibilité de ces bras-là qu'il va falloir regarder et chercher.
OK. Il y a un vieux principe, là, je vous le soumets, c'est quand on veut régler un problème, on commence par la base, c'est-à-dire on parle aux docteurs, on parle aux infirmières, on parle aux autres personnels qualifiés pour voir c'est quoi la réalité, puis on est-tu capable de le faire, là, parce que ce que vous me dites, c'est qu'il y a des gens qui donnent pas assez d'heures, qui sont pas assez disponibles, qui préfèrent le temps partiel, peut-être parce qu'ils trouvent que les conditions de travail sont pas assez intéressantes.
Mais c'est exactement ça qu'on vise vraiment de faire au courant de l'été avec quelques comités. Et chaque comité, c'est vraiment de comprendre quels sont les enjeux, quelle est la réalité terrain. Ces comités-là, par exemple, incluent avec les grands syndicats des infirmières, Inalo, médecins, la réalité du niveau du RH terrain et en plus des médecins infirmières Inalo pour un comité plus la réalité clinique. C'est vraiment ça qu'il faut bien comprendre pour qu'on fasse des stratégies qui vont fonctionner et qui vont aller chercher les résultats que ça nous prend pour diminuer la liste.
OK. On comprend qu'il y a des priorités, les cas de cancer, bon, très bien. Mais là, je pense aux gens qui vous écoutent ce matin, là, puis par exemple, là, un cas, là, quelqu'un qui attend pour une opération avec un ophtalmo. C'est pas une question vitale, mais c'est une question de qualité de vie. Ça, c'est le genre de patient qui va attendre.
Oui et non, parce que même aujourd'hui, 2/3 des patients sont sur la liste depuis le mois de janvier 2021, moins de 6 mois. Notre délai moyen de chirurgie en ce moment, toute chirurgie incluse, c'est de 100 jours.
Oui, mais ça, c'est toute chirurgie, là. Mais je vous parle de cas là, qui ne sont pas des cas de vie ou de mort, là.
Mais pas de vie de mort. L'ophtalmologie, c'est un excellent point. Puis, c'est par exemple ça qui peut être très facilement fait et qui est fait dans les CMS. C'est quelque chose qui est, comme vous dites, c'est pas vie de mort, mais c'est quand même une qualité importante.
OK. On va poser la question autrement. Donnez-moi l'exemple d'un patient qui, lui, risque d'attendre et d'attendre parce que sa chirurgie n'est pas vitale, mais en même temps, elle ne peut pas être faite ailleurs qu'à l'hôpital.
Les gens qui sont les plus problématiques pour nous à leur offrir des opérations sont ceux qui ont besoin d'avoir une hospitalisation post-opératoire et la réadaptation post-opératoire. C'est vraiment ça qui est l'enjeu, parce que l'accessibilité au lit, il y a les urgences qui ont besoin, les post-op, c'est vraiment ces patients-là qui sont les plus compliqués pour le réseau à faire.
OK. Puis ça, c'est quel genre de chirurgie, pareil? Donnez-moi peut-être juste une figure là, que les gens puissent bien comprendre.
C'est beaucoup l'orthopédie hanche et genou, par exemple. Puis on a beaucoup entendu les patients qui attendent longtemps pour ça.
Et ça veut dire que je peux attendre combien de temps pour une opération de hanche ou de genou?
C'est assez variable d'une région à l'autre, mais c'est ceux-là qui on voit beaucoup le 6 mois et plus. C'est vraiment là-dessus et c'est pour ça aussi qu'on travaille avec l'Association des orthopédistes pour voir quelles sont les stratégies pour aller chercher. Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut éviter des hospitalisations de courte durée puis faire des suivis en externe? Est-ce que c'est vraiment la question aussi, est-ce qu'on peut faire autrement? Parce que c'est vraiment ce domaine-là, par exemple, qui est beaucoup affecté.
Il y a des oncologues qui nous ont dit ici à l'antenne que ce qu'ils remarquent, c'est des cas plus lourds, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas eu un diagnostic assez rapide ou des cas qui auraient pu être traités qui, malheureusement, avec les retards sur des tests et tout ça, bref, des gens qui ont vu leur état de santé se détériorer. Est-ce que vous faites le même constat que la pandémie a fait en sorte que des gens qui, normalement, auraient été traités plus vite et peut-être avec plus de succès se retrouvent aujourd'hui davantage hypothéqués?
Nous entendons la même affaire dans nos comités cliniques avec les oncologues et on essaie de chiffrer ça, mais des fois, les chiffres, pour le moment, ils ne le démontrent pas, mais peut-être ça va arriver. Et c'est vraiment ce fameux liste cachée dont le ministre Dubé a parlé hier, que ça vient toucher. Parce que si on regarde le temps délai en moyen pour une chirurgie de cancer, ça n'a pas changé 17 jours. Mais ce qui a beaucoup diminué, c'est dépistage de cancer de côlon. Les visites pour toutes sortes de évaluations en lien avec des cancers. Alors, c'est vraiment de voir et de souligner l'importance de recommencer, de voir les médecins, de faire notre dépistage, parce que c'est pas en lien avec les délais en chirurgie, c'est en lien avec les délais de trouver, de dépister le cancer qu'on remarque en ce moment.
Mais Québec solidaire disait hier avec raison, là, on a beau avoir tous les plans possibles, être de bonne foi, puis de souhaiter opérer le plus de gens, ça prend du personnel. Vous allez devoir trouver, je comprends, vous m'avez dit, c'est pas juste le nombre de personnes, mais la disponibilité, mais faut augmenter les heures travaillées d'abord dans le réseau de la santé.
Oui, il le faut. Et j'ai mentionné la disponibilité, mais également, ça prend des bras supplémentaires. Ça prend aussi de regarder le qui fait quoi pour voir est-ce qu'il y a des façons de concentrer ce qui doit être fait, par exemple, par une infirmière, et d'autres tâches, est-ce que ça peut être fait par d'autres personnes. Mais oui, effectivement, ça prend des bras de plus parce que, veut pas, on peut optimiser et on doit optimiser l'utilisation, par exemple, des salles d'op, mais à un moment donné, il va falloir aussi regarder comment ajouter des heures pour faire plus de volume.
Est-ce que c'est vrai que durant la pandémie, dans des cliniques privées, là, je sais que vous avez des ententes avec des centres, là, mais il y a des centres totalement privés de chirurgie où on fait de la chirurgie esthétique, là, on va refaire des seins, des fesses, que ça a connu un boom et que beaucoup d'infirmières quittent pour aller vers ce type d'endroit?
Ça figure parmi des différents endroits où les infirmières sont allées. Quand un endroit est complètement privé, nous, on n'a pas accès de savoir combien de personnes ils ont engagées.
Mais ce que vous êtes en train de me dire, Dr. O'Patterney, c'est que pendant que vous cherchez à opérer des hanches puis des genoux, il y a des infirmières qui s'en vont dans des cliniques privées faire des seins puis des fesses.
Oui, on pourrait dire ça, oui. Mais je pense que le problématique, c'est plus l'exode des patients, les infirmières vers les agences.
J'ai l'impression qu'on a toujours la même question puis le même problème année après année. Juste un mot, je ne sais pas si c'est dans votre cours, là, le journal qui revient de Montréal ce matin sur des primes versées aux anesthésistes, $34,80 par quart d'heure pour surveiller un patient qui est branché sur des appareils là, de respiration. Même s'il n'est pas à l'hôpital, puis il y a des médecins qui ont facturé jusqu'à $3,300 quotidiennement, le budget a pratiquement doublé. On pensait qu'on avait réglé les histoires de primes de docteurs, moi, là, mais...
Moi, je vais laisser l'Institut de pertinence de regarder, réfléchir et nous revenir là-dessus.
OK. C'est pas dans votre cours, quoi?
Non.
OK. Merci, Dr. O'Patterney.
Merci à vous.
Au revoir, Dr. Lucie O'Patterney, sous-ministre adjoint à la Santé. La conclusion, si vous me permettez, c'est que l'intention, la volonté est réelle de l'ensemble des joueurs dans ce match-là. Là. Mais ce que vous comprenez, c'est qui va passer en premier, pour toutes sortes de raisons. Puis deuxièmement, est-ce qu'on va être capable de trouver la main-d'œuvre, pas juste en nombre, là, puis attirer les gens. Puis les infirmières, on ne peut pas les blâmer d'aller ailleurs quand les conditions de travail sont ailleurs. Plus intéressant. Là, comment tu fais pour les ramener? Puis Québec solidaire, hier, avait un excellent point. C'est-à-dire que oui, on est d'accord, mais c'est quoi le plan d'embauche, de recrutement? Puis hier, c'était comment on s'assure que le bloc opératoire ne finit pas à 2 heures? Parce qu'on se dit, on a une chirurgie qui va peut-être dépasser 4 heures. Je veux dire, il y a un problème, là. Il ne faut pas le dire trop fort, parce que ce n'est pas le temps. Il y a une lourdeur syndicale aussi, de convention collective. C'est une grosse machine, quand je parle du mammouth.